Radio Okapi. Journal présenté par Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde est arrivé hier mercredi à Bunia à la tête d'une forte délégation. Objectif, évaluer la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri sous état de siège depuis 15 mois. Et puis les femmes de Mbujimayi saluent les discours du chef de l'État à l'ONU dans son volet parité homme-femme. Félix Antoine Tshisekedi a rappelé son initiative d'avoir organisé une rencontre sommet à ce sujet, insistant sur le fait que la femme doit être valorisée en lui confiant plus de responsabilités à tous les échelons. L'invité de ce journal est le point focal du collectif des associations féminines pour le développement CAFED à Beni au Nord Kivu. En marge de la Journée internationale de la paix, Maître Patience Kavira Sinamouli parle de l'image de la paix qu'a la femme de Beni et de l'Ituri. Voilà pour les titres. Bonne écoute. Tout d'abord, cette information, l'ancien conseiller stratégique du président Félix Tshisekedi, Vidi Etimanga, a été placé sous mandat d'arrêt provisoire hier mercredi soir et conduit à la prison centrale de Makala, CPRK. Au terme d'un long interrogatoire, soit de 11h à 18h, au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, Vidi Etimanga a été invité à répondre aux questions se rapportant aux faits constitutifs de la prévention des corruptions au cœur d'un scandale le mêlant à ce qui est considéré comme une tentative de trafic d'influence auprès des supposés investisseurs dans les mines. L'ancien conseiller stratégique du président Félix Tshisekedi a démissionné de son poste le vendredi 16 septembre suite à une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux où il s'entretient avec ses supposés investisseurs. Ces derniers l'ont filmé à son insu. Dans cette vidéo publiée par les médias suisses Le Temps, on l'a montré promettre à ses interlocuteurs la sécurité, demandant une commission de 20% sur les futures opérations. Ses avocats, approchés à l'issue des auditions, ont refusé de s'exprimer. Quant à l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, elle confirme avoir ouvert une enquête à son encontre. Et à présent, les détails. Évaluer la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri sous état de siège depuis 15 mois. C'est l'objet de la visite de travail du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, arrivé hier mercredi à la tête d'une forte délégation à Bunia. Le vice-premier ministre en charge de la Défense et membre de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat font partie de sa délégation. Se confiant à la presse sur place à Bunia, le chef de gouvernement a indiqué que les échanges qu'il va avoir avec les services de sécurité et les acteurs de la société civile vont permettre d'orienter les actions du gouvernement dans la recherche d'une paix durable dans cette partie du pays. Jean-Michel Samalukonde est au micro de Martial Kizabiamungu.
Nous avons déjà été ici en visite d'évaluation justement de l'évolution sécuritaire de la province. La différence, c'est que cette fois-ci, nous avons voulu commencer par l'Ituri et nous sommes très contents d'être accueillis ici à Bunia. Nous sommes venus avec une forte délégation parce que dans le cadre de cette évaluation, bien sûr, nous le faisons avec l'accompagnement de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et nous sommes venus aussi avec tous les services connexes qui nous accompagnent dans le cadre de ces opérations. Donc nous sommes convaincus que dans les échanges que nous allons avoir avec les autorités militaires, mais aussi avec les forces vives de la province de l'Ituri, pourront mieux orienter notre action dans cette paix que nous recherchons dans cette province. C'est aussi l'occasion, bien sûr, de venir encourager nos forces armées ainsi que ceux de la police qui tous les jours se sacrifient pour la souveraineté de la nation. C'est toujours bien que nous soyons à leur côté pour un réarmement, les encourager dans le travail qu'ils font parce qu'il est très reconnu et très soutenu par le président de la République.
Au nord Kivu voisin, en territoire de Rutshuru, la société civile continue à mettre la pression sur les autorités pour exiger la reprise par les FARDC de la cité frontalière de Bunagana ainsi que de toutes les localités occupées par les rebelles du M23 soutenues par le Rwanda depuis plus de 3 mois. Dans une déclaration mardi dernier à Rutshuru, la société civile a indiqué qu'un mois après la promesse faite par le gouverneur du Nord Kivu de tout mettre en œuvre pour récupérer cette entité d'importance capitale pour ce territoire, rien n'a été fait sur terrain et la population déplacée continue à souffrir. D'autres détails avec Blaise Sindani Kambala.
D'après le président de la société civile de Rutshuru, des milliers d'habitants déplacés vivent dans des conditions inhumaines dans plusieurs sites privant leurs enfants de poursuivre leurs études. De plus, ils n'ont pas accès aux soins de santé ni aux services sociaux. Cette occupation a engendré d'énormes conséquences socio-économiques pour la population de Rutshuru. La société civile a annoncé une série d'actions, notamment le non-paiement des taxes pour exiger le retour de la paix et de la sécurité.
Nous devons nous liguer tous ensemble pour que les FARDC prennent leurs responsabilités afin de traquer ces bandits d'IAM23 et leurs alliés. C'est comme ça que nous venons de décréter, 1, des sit-ins illimités à partir de ce jeudi. Nous venons de demander la suspension de la perception ou le paiement de toutes les taxes et impôts sur le territoire de Rutshuru. Du moment que nous voyons que les impôts que nous payons, nous sommes dans l'insécurité, il n'y a pas de raison de continuer de payer les impôts pendant que nous sommes dans la difficulté.
Pour rappel, les rebelles du M23 occupent depuis plus de 3 mois la cité de Bunagana et ses environs. Ils y ont installé une administration parallèle et ont instauré notamment des travaux communautaires forcés en plus du couvre-feu à 19h local, sans compter d'autres restrictions comme par exemple l'identification du bétail.
Et puis à l'occasion de la Journée internationale de la paix célébrée hier le 21 septembre, les militants du mouvement Lutte pour les changements ont organisé une marche à Kananga. Objectif, dénoncer l'occupation de Bunagana par le M23 et leurs alliés rwandais. Dans un mémorandum adressé aux autorités, ces jeunes demandent au Parlement d'allouer un budget conséquent aux FARDC pour qu'elles combattent l'ennemi afin de ramener la paix dans l'est de la RDC. Suivez leur déclaration dans cet extrait tiré par François Kadima.
La Lucha reste préoccupée par la trêve observée depuis un certain temps sur tous les fronts, laquelle trêve profite à l'ennemi pour lui permettre de se réorganiser et d'attaquer éventuellement les positions des militaires FARDC. La Lucha demande au Parlement d'allouer un budget significatif aux forces armées au cours de cette session parlementaire consacrée à l'adoption du budget national. Il est juste si les députés réduisent sensiblement les rémunérations pour permettre d'investir dans l'achat des munitions et équipements militaires pour l'armée congolaise. La Lucha demande aux veillants militaires de ne prioriser que les attaques sans relâche pour défaire définitivement l'ennemi. Demande au commandement des forces armées de relancer les opérations militaires pour mettre fin à cette menace du M23.
L'une des premières responsabilités face aux différents contenus que nous recevons dans nos téléphones, c'est de nous interroger s'il faut l'envoyer ou pas. Déclaration du directeur de la division de la Commission de la communication stratégique et de l'information de la MONUSCO hier mercredi à Kinshasa. Christophe Boulirac s'adressait à plus de 300 jeunes en marge de la célébration de la Journée internationale de la paix. Cette année, c'était sous le thème « Mettre fin au racisme, bâtir la paix ». Dans le contexte de la RDC, la mission onusienne a organisé une session de formation et d'échange avec ces jeunes autour de la contribution de la jeunesse à la lutte contre les discours de haine, la désinformation et la manipulation dans la société congolaise. D'où cette interpellation de Christophe Boulirac dans un extrait des propos vous est proposé ici par Honoré Missenga Kalala.
Voilà ce qu'a dit votre président, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant l'Assemblée générale des Nations unies. Je le cite. « L'État congolais et la société civile congolaise ne permettront jamais à quiconque de tenir le discours de la haine tribale, ethnique et raciale ou xénophobe dans notre pays. La Constitution de la République et les lois congolaises interdisent un tel discours et le sanctionnent sévèrement. » C'était les propos de votre président devant le monde entier. Alors, ce que je voudrais juste vous dire, c'est que on a tous une responsabilité énorme. On est tous les ambassadeurs de la construction de la paix par rapport aux discours de haine. Et ça me paraît particulièrement pertinent de parler des discours de haine, d'échanger, de comprendre ensemble et de voir comment on peut travailler sur ça ensemble dans un contexte médiatique congolais qui change et qui va continuer de changer très très vite par rapport à l'accès notamment à Internet.
Dans le même registre, le prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, exhorte quant à lui l'opinion congolaise à ne pas encourager un retrait précipité et non responsable de la MONUSCO. Le faire, c'est jouer les jeux des ennemis de la paix, affirme-t-il. Le célèbre médecin congolais s'est ainsi exprimé la semaine dernière en Belgique lors d'une conférence internationale sur la paix. Cette activité était organisée par le mouvement citoyen Conscience Congolaise pour la paix, COPAX en sigle. Écoutez le Dr Denis Mukwege dans cet extrait proposé par Cynthia Bachizina Bizana.
Le partenariat avec les autorités congolaises n'a pas non plus rendu la mission de l'ONU facile. Pourtant, nous invitons nos compatriotes à ne pas se tromper de lieu et nous pensons qu'il ne faut pas encourager un retrait non responsable et précipité de la mission onusienne. Et ici, je l'ai dit en toute responsabilité. Je sais que ce n'est pas populaire, mais nous devons être responsables et nous devons éviter de jouer le jeu des ennemis de la paix en République démocratique du Congo. Car le vide que peut laisser les forces des Nations Unies, même si elles ne sont pas efficaces, serait de nature tout simplement à favoriser le chaos total à l'est de la République démocratique du Congo. Et ceux qui souhaitent ce chaos total auront les libres passages de pouvoir continuer à exploiter notre pays.
Et sous un autre chapitre, le chef de la délégation de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier, est arrivé hier mercredi à Bandundouville, chef-lieu de la province de Kwilu, pour une visite de travail. Selon lui, c'est notamment pour s'enquérir personnellement de la réalité sur terrain en rapport avec la situation des déplacés qui fuient les violences occasionnées par les conflits entre les Teke et les Yaka dans le territoire de Kwamout, au Maïndombe. Des détails avec Irène Boma.
Après avoir présenté ses civilités auprès du gouverneur du Kwilu, Willy Ichundala, dans son cabinet de travail à Bandundu ce mercredi, le chef de la délégation de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier, s'est fait accompagner du chef de l'exécutif provincial et des autres membres du gouvernement pour se rendre au marché central de Malebo où sont logés plusieurs déplacés du conflit Teke-Yaka de Kwamout. Devant ces derniers, Jean-Marc Châtaignier explique la raison de sa visite à Bandundu.
Je suis venu ici dans cette province du Bandundu que je ne connaissais pas pour découvrir la situation. J'ai entendu parler de ce drame contre les populations, de ces affrontements entre les Teke et les Yaka et j'ai tenu à venir vous voir parce que je crois que vous avez été les premières victimes et que les conditions ici sont très difficiles. Nous sommes là pour essayer d'aider monsieur le gouverneur, de voir avec les responsables des organisations humanitaires à Kinshasa l'aide que nous pourrons vous apporter. Avec l'idée bien sûr que les affrontements s'arrêtent et que vous puissiez revenir sur vos terres. C'est pour cela que nous sommes là pour vous écouter.
Dans leur mémo adressé à l'ambassadeur de l'Union européenne, ces déplacés de Kwamout ont exprimé plusieurs besoins. Entre autres, ils ont plaidé pour des moyens afin de retourner dans leur milieu d'origine. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Nous devons amplifier la coopération entre le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et celui de la RDC dans les secteurs de l'éducation, la culture, les médias, la coopération internationale et scientifique. C'est en ces termes que Pierre-Yves Géolé, ministre-président du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a clôturé hier mercredi à Kinshasa sa visite de travail effectuée du 18 au 21 septembre 2022. Il s'est dit satisfait des échanges qu'il a eus avec les autorités et les partenaires rencontrés sur terrain et impressionné par ce qu'il a vu. Pierre-Yves Géolé salue le sens de créativité des artistes congolais, le dynamisme de la jeunesse et la montée de l'entrepreneuriat féminin. On l'écoute au micro de Jean-Marc Matouaki.
Je suis évidemment très satisfait, je n'en doutais pas, le voyage a été reporté à deux reprises, donc on était évidemment heureux de venir et impatients de venir à Kinshasa, mais on peut toujours dire que la coopération, c'est parfois des petites gouttes d'eau dans l'océan, mais ce sont des gouttes tellement importantes par rapport au peuple congolais, par rapport au soutien à la culture, par rapport au soutien à l'éducation, à la formation, à l'entrepreneuriat féminin. Donc voilà, ce sont des éléments qui sont très importants, et avec aussi l'importance des partenaires de terrain que nous avons rencontrés, qui est vraiment importante et tout le travail aussi de formation, d'encadrement d'étudiants, mais aussi des personnes qui viennent apporter leur pierre à l'édifice ici. Donc vraiment impressionné par toutes ces visites de terrain et l'objectif aussi, de cette visite, c'était de rencontrer bien évidemment les autorités, mais aussi tous les partenaires de la coopération et avec qui Wallonie-Bruxelles International travaille, mais aussi la délégation générale ici à Kinshasa.
Revenons encore une fois à cette réaction au discours du président Félix Tshisekedi mardi dernier aux Nations Unies. Une partie de ce discours avait trait à la parité homme-femme. Félix Antoine Tshisekedi a rappelé son initiative d'avoir organisé la rencontre des chefs d'État et de gouvernement à Kinshasa sous le thème « Conférence des hommes sur la masculinité positive », insistant sur le fait que la femme doit être valorisée en lui confiant plus de responsabilités à tous les échelons. En Mbujimayi, les femmes applaudissent cet aspect soulevé par le chef de l'État dans son discours à la tribune de l'ONU à New York. Esther Dalafina a recueilli les réactions. Suivez.
Nous sommes très contentes et très fiers de suivre ce message, voyant que le chef de l'État a porté ce problème à la tribune des Nations Unies. Notre président est un homme qui lit l'acte à la parole. Ce qu'il a déclaré, c'est la réalité. Dans le gouvernement central, il y a des femmes et il a attribué même des postes de souveraineté à des femmes. Nous sommes conscientes que ce n'est pas un cadeau. Nous, femmes, nous devons être responsables, c'est-à-dire nous devons travailler davantage pour mériter cela, que ce soit dans les postes de nomination ou dans les postes électifs.
Nous sommes vraiment contents parce qu'on étudie aussi. Ça nous donne encore plus envie d'étudier et d'aller de l'avant afin d'aider les chefs de l'État comme il veut aussi nous aider.
J'ai été vraiment émerveillée, c'est-à-dire le président de la République. Il montre que vraiment c'est un grand citoyen qui respecte la Constitution. Le président veut montrer tout simplement que la promotion de l'égalité du genre, c'est une responsabilité de tous, et des hommes et des femmes. Pour cela, il faut promouvoir des opportunités pour intégrer les femmes jusqu'à ce qu'on va atteindre une représentation paritaire homme-femme. Que le gouverneur du Kassai-Oriental le fasse aussi, parce qu'il ne faut pas qu'on dise qu'on soutient les chefs de l'État. Dans les discours et dans la pratique, il n'y a rien.
Donc le chef de l'État est seul à comprendre que la parité valait mieux pour le développement d'un pays.
Actualité internationale.
La CEDEAO, en sommet extraordinaire aux États-Unis d'Amérique sur le Mali et la Guinée, sous la menace de lourdes sanctions. Un sommet très attendu qui se tient ce jeudi à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Convoqué à l'initiative de la présidence visao-guinéenne, il sera essentiellement consacré aux situations en Guinée et au Mali, source de tensions entre l'organisation régionale et les deux capitales. Centrafrique, à Bangui, les marchés noirs d'essence sauvent les automobilistes. La crise des carburants qui a débuté en mars dernier en Centrafrique se poursuit. À Bangui, les stations qui ne sont pas fermées faute d'approvisionnement sont prises d'assaut. Un marché noir s'organise en parallèle. Le gouvernement ne parvient pas à rétablir la situation et accuse les fournisseurs. Les taxis et mototaxis, eux, subissent au quotidien les effets de la crise.
L'invité.
L'invité de ce journal est le point focal du collectif des associations féminines pour le développement CAFED à Béni, au Nord Kivu. En marge de la Journée internationale de la paix, Maître Patience Kavira Sinamouli parle de l'initiative de la parle de l'image de la paix qu'a la femme de Béni et de l'Ituri. Elle répond aux questions de Marc et Marofimbo. Suivez.
Madame Patience Sinamouli, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
C'est 21 septembre, c'est la journée internationale de la paix. Quelle image la femme de Béni donne-t-elle à cette journée?
La femme de Béni a une image sombre par rapport à cette journée. Parce que si on demandait à la femme de Béni de célébrer la paix, c'est lui demander une chose à son contraire. Parce que les atrocités continuent à s'aggraver du jour au lendemain. Nord Kivu et Ituri, on dirait que c'est devenu un autre monde, à part le monde entier, vu les atrocités que nous sommes en train de vivre. Et hier même, vous l'avez attendu, on a encore ressenti de véhicules, les gens ont été encore massacrés. Bon, nous demandons si nous sommes toujours aussi dans le monde là qui célèbre cette journée mondiale de la paix. Donc la ville de Béni, Béniville et territoire, cette journée vraiment elle est tellement sombre pour nous parce que nous continuons toujours à pleurer les nôtres qui nous ont précédés. Nous voyons combattants qui ont laissé leur repos sur les champs de bataille. Nos jeunes gens, les garçons, les papas, les mamans qui ont perdu leur vie dans différentes marches à vouloir chercher la paix. Nous ne sommes pas encore vraiment à ce niveau-là de célébrer cette journée mondiale de la paix.
Bien qu'on n'est pas encore au niveau de célébrer cette journée, comment vous pensez valoriser cette journée pour la femme de Béni qui prend déjà l'image sombre de cette journée?
La femme de Béni pourra valoriser cette journée peut-être dans les jours qui viennent. Parce que là, nous sommes en train d'encourager les efforts qui sont menés par-ci, par-là, pour que la paix revienne chez nous. Et nous n'attendons qu'elle est palpable. Le jour où nous allons palper du doigt que vraiment la paix est revenue chez nous, c'est là qu'ils partaient au chat, ils partent et reviennent, c'est ils sauvent. Les commerçants font leur commerce, c'est sa difficulté. Et tout le monde pourra vaquer à ses occupations, sans aucune contrainte. Là, on dira que vraiment la paix est revenue chez nous. Et à ce moment-là, la femme de Béni pourra se valoriser cette journée et la commémorer dans les jours qui viennent.
Mais la femme de Béni a aussi sa part de responsabilité dans le retour de cette paix, vu les efforts qui sont en train de fournir par-ci, par-là, comme venait de dire.
Si, la femme de Béni, d'ailleurs, elle contribue beaucoup parce que la majorité d'elle dénonce souvent les faits. Parce que nous élevons nos voix pour que nous soyons écoutés partout. Parce qu'on dirait que ceux qui ne sont pas avec nous, parce que c'est peut-être un film, mais nous qui vivons, nous savons la réalité et la douleur de ce que nous traversons. Voilà pourquoi nous sommes en train de hausser la voix dans le monde entier. Partout, ils célèbrent cette journée. Qu'ils songent qu'à Beni, tout ce qui se passe au nord, Kivu et Tour, c'est du génocide. Nous avons besoin de leur intervention. S'ils peuvent s'unir tous pour que la paix revienne chez nous, ça fera vraiment pour nous un grand plaisir. Parce qu'imaginez, dans un même pays où l'autre côté est dirigé par les rebelles et l'autre côté, c'est le gouvernement qui dirige, nous sommes dans une confusion totale. Nous avons besoin que la paix revienne chez nous, que tout le monde apporte sa pierre pour que la paix revienne.
Mettre fin au racisme et bâtir la paix, c'est même la thématique de cette journée. Partant de cette thématique, la femme de Beni, quelle perception fait-elle?
La femme de Beni, elle est hospitalière. Parce que si on disait que la femme de Beni fait ceci à telle parce qu'elle est de telle race, non, ça ne se fait pas à Beni. Mais tout ce que la femme de Beni veut, c'est que la paix revienne chez nous. Que tous ceux-là qui viennent à Beni, parce que Beni, c'est une ville cosmopolite. Donc, plus les gens viennent, notre souci est qu'ils contribuent aussi à la restauration de la paix.
En suivant le président de la République, Félix Tshisekedi, aux Nations Unies, il a clairement dit « Les violences doivent cesser à l'est du pays. » La femme de Beni ne se retrouve-t-elle pas dans cette déclaration et quelle est sa position?
Monsieur le journaliste, nous avons déjà engaissé assez de déclarations. Donc ce que le président a fait, c'est aussi un pas. Parce que nous, on l'a dénoncé depuis bien avant. Mais comme il l'a fait aussi, c'est bon, mais c'est lui le garant de la nation. Il a une autorité, il est à mesure de passer en action. Parce que l'air est révolu, que les négociations continuent, les dialogues, les quoi là. Aussi longtemps que vous savez votre adversaire, vous n'avez aussi qu'à mettre aussi votre plat B. Jusque là, notre président était très clément, il a fait ce qu'il pouvait dans la paix. Mais comme celui qui nous agresse, lui ne veut pas la paix. Donc notre président aussi doit passer au face B. Nous n'attendons que les résultats de tout ce qu'il a dit là-bas.
Madame Patience, nous vous disons merci.
C'est nous qui vous remercions.
C'était l'invité de ce journal, le point focal de Café de Beni au Nord Kivu. Maître Patience Kavira Sinamouli s'entretenait avec Marc Marofimbo. Fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.